Il y a 2 ans, j'étais sur l'île de Skye. J'étais avec mon frère, j'étais avec ma femme. Et j'ai fait une chute de 3 mètres. Et j'ai cassé 2 côtes là. Et j'ai tout amoché, mon bassin là. Et le pire, c'est que quand je suis tombé, ma tête est entré dans une crotte de mouton. Donc j'étais vraiment sali et j'avais du sang, j'avais la boue, et j'étais là. Hein, et mon doigt était tout disloqué, là c'était à l'angle droit, là, comme ça. Et j'étais là. Et Sylviane est venue me secourir, quand même. Après cette chute de 3 mètres, elle est venue. Et bon, pas par ma main ici, parce que c'était tout cabossé, mais par l'autre main. Elle a tenu ma main. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait tellement du bien. Et elle m'a donné un coup de main. Elle m'a donné un coup de main. Et après, on a dû marcher 2 kilomètres pour arriver jusqu'à la maison. Il pleuvait, il faisait froid. J'étais dans un état de choc. Mais c'était cette main, je me rappelle. Je tenais cette main. Je tenais cette main et ça me donnait de la force, et ça m'a encouragé. Et c'était intéressant que Jean, dans sa prière, il a dit la main de Dieu est sur nous, dans ce magnifique psaume de David. La main de Dieu est sur nous, et vraiment magnifique, la main de Dieu sur nous. Et aujourd'hui, ça va être un peu interactif. Mais je veux vous donner un coup de main, pas juste pour Noël, mais Jésus est ce coup de main pour Noël, mais aussi pour l'année qui va venir. Donc là, vous pouvez garder ce que je vais vous dire, hein. C'est facile, hein, parce que vous avez toujours votre main avec vous. Donc montrez votre main gauche, hein. Tout le monde a une main. Donc ça va être interactif ce matin, hein. Vous n'avez pas besoin de faire comme ça, mais vous pouvez faire tout secrètement, mais si vous voulez ça, vous pouvez, hein. C'est à chacun leur degré de, je sais pas, de si on est extroverti ou si on est introverti, mais bon, c'est un coup de main. Je vous donne un coup de main au nom de Jésus ce matin. Et donc, regarde-la cette main-là. Et celui-là, le plus petit, encore le plus petit. Et Jésus, hein, vous pouvez prendre votre main là. C'est la crèche, hein? Et il est devenu le plus petit dans la crèche. Hein? Le plus petit, Jésus est devenu un homme. Et si on est théologien, ça s'appelle la kénose. C'est d'un mot en philippien où on dit il s'est dépouillé lui-même. Et le mot là en grec c'est kénose. Et donc ça veut dire il s'est vidé. Il était tellement rempli, il était Dieu, mais il s'est vidé de toute sa gloire pour prendre cette pâte humaine incroyable. C'est la kénose. Et d'un côté, les Juifs aussi, c'est tout au début de la création. Hein, pour ceux qui font des recherches sur les Juifs et tout ça, la culture hébraïque, hein, une grosse partie de leur théologie, c'est pas la kénose, parce que bon, pour le moment, ils n'ont pas encore abouti à voir Jésus comme leur Messie. Mais au début, ils disent, mais Dieu, si on pense à la notion de Dieu quand même, il est tout, Dieu est tout. Il n'y avait que lui au départ. Il n'y avait que lui. Il n'y a pas de place pour d'autres. Quand Dieu est là, il remplit la pièce, quoi. Et l'univers était que Dieu. Dieu était partout. Et donc on a dit, mais il avait tellement d'amour qu'il devait faire de la place pour une création, pour les planètes, pour les étoiles, pour les 7 jours de la création. Il a dû faire de la place. Et ça s'appelle, il y a un super nom, hein, je vais vous donner ça, c'est Zimzum. Ou Zimzam, non, je pense que c'est Zimzum. Et c'est Zimzum. C'est en hébreu. Et ça, c'est aussi la kénose de Dieu. C'est comme si il a dit, c'est comme, à vrai dire, pour toutes les gens qui étudient l'astronomie et tout ça, c'est comme un trou noir. C'est tellement concentré. C'est tellement concentré. Et avant le Big Bang, si on croit à ça, il s'est tellement... Il a dit, je laisse la place. Allez. Il est devenu tout petit, et après, il a explosé, il a créé le monde, il a laissé la place pour nous. Et donc, Dieu est devenu tout petit. Et donc, on aime bien ça. Si vous avez une crèche chez vous, voilà, le petit bébé, Jésus est devenu tout petit, le plus petit parmi nous. Mais, il a grandi. C'est mon petit doigt, même si c'est petit, ça grandit. Il n'est pas resté bébé. Il a grandi. Et même dans la Bible, on voit, c'est super comment Dieu est entré dans la culture humaine. Il est entré dans notre langage. Il est entré dans la culture juive. Jésus est pleinement juif en tant qu'homme. On oublie ça souvent. On pense qu'il est grec, qu'il est romain, qu'il est américain, qu'il est français. Je ne sais pas, bon, qu'il est anglais. Mais on voit juste dans Matthieu 13, hein, c'est... Matthieu 13, 55, tu vois, il est dans un village, il est connu. C'est comme à Thumri, on dit, oh, mais tel est le fils de là, on est à l'école avec. Tu vois, c'est les gens, et Jésus est entré dans cette culture de village. Et là, en 55, on dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Et donc, Jésus, là, le plus petit, je dirais, il est le fils du charpentier. Il a appris un métier. Oh là là, celui qui savait sculpter Vénus, les planètes, celui qui jetait les étoiles là où il voulait, il a quand même appris un métier avec Joseph, fils du charpentier. Il y a un magnifique tableau de Georges de la Tour, je ne sais pas si vous connaissez Jésus avec son papa, Joseph le charpentier. Je vous recommande de le voir. C'était au Louvre-Lens une fois. Tu sais, en quelque part, on a le droit d'avoir des tableaux. Et on voit même, tu vois, ce petit Jésus avec une bougie devant Joseph qui est en train de manier une sorte de truc pour percer le bois. Et ça, c'est une image de la croix déjà dans ce tableau. Et après, on voit la lumière qui passe la petite main de Jésus, et on voit le rouge du sang là-dedans. Et c'est vraiment, c'est magnifique comme tableau. Georges Lator, Joseph le charpentier. Et il était fils du charpentier, il a appris un métier. Et donc c'est bien parce que quelquefois dans l'église, on est tellement intellectuel, théologique, machin. Et pour ceux qui peuvent raconter une belle histoire, qui sont bons avec les paroles et tout ça, oh, ils sont élevés. Et on a une tendance de mépriser le métier, celui qui travaille, qui est avec ses mains, et qui conduit des camions, ou qui fait l'électricité, ou je ne sais pas, chacun de nous, hein, on prépare, on est cuisinier. Et d'un côté, les mains de Dieu étaient les mains travailleuses. C'était les mains d'un travailleur. Moi, il ne faut pas oublier ça. Parce qu'on a tellement tendance de spiritualiser toute chose, de penser que Jésus n'était qu'un grand érudit, super spirituel, mais c'était un travailleur. C'est magnifique, c'était un travailleur. Et il s'est entré, il est entré pleinement dans cette patte humaine pour s'identifier avec nous. Et donc ça, c'est un peu mon petit doigt me le dit. Que Jésus est tout près de moi. Dans mon humanité, la kénose. Donc ça, c'est le premier coup de main. Mais bon, on ne peut pas aider beaucoup si on n'a que ça. Si on n'a que ça, ça aide un peu. Merci, allez. Et voilà, Jésus aussi, avec ce coup de main, avec l'alliance, hein, avec l'alliance, il est aussi le crucifié. Il est aussi le crucifié. Et déjà, on a deux doigts. Ce petit bébé, ce charpentier, cet homme du métier qui a appris la langue, qui a appris l'araméen, il était destiné à être le crucifié aussi. Et ça, c'était encore une humiliation pour lui. L'innocent crucifié. Et là, on peut tourner encore quelques pages de Matthieu. Et je pense que ce qu'il faut regarder là, c'est quand vous faites avec ce doigt-là, si vous êtes peut-être marié ou non, je ne sais pas, il y a une bague pour moi, j'ai l'alliance. Donc là, ça me parle. Là, j'ai une alliance. J'ai une alliance. Et là, vous pouvez prendre ce doigt-là et vous faites ça. C'est un petit coup. Et peut-être vous prenez ce doigt comme tous les péchés qui vos actes manqués, toutes les personnes qui vous accusent, tout le passé qui vous accuse. Et vous dites, d'accord, il y a le droit, même quand vous vous accusez vous-même. Et vous faites ça. Et tu dis, comme Sylviane a si bien lu, il a pris nos péchés sur lui. Et tu fais ça, et peut-être même dans les moments de tension, tu vois, dans les familles, dans ces magnifiques rencontres familiales qu'on peut avoir. Bon, il n'y a jamais de la tension. Hein. Mais quelquefois, tu peux faire ça secrètement. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh là, rien. Jeu de main. Mais voilà, on peut faire ça. Et Jésus est le crucifié. Et voilà, on lit ce texte magnifique en Matthieu, hein, quand Jésus préparait la Sainte Cène. Et voilà, la Sainte Cène, Matthieu chapitre 26, et bon, plus ou moins verset 27. Hein. Et il prend cette coupe, hein, quand nous venons de faire, et il dit, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. » Merci Seigneur. Donc là, vous avez ça dans cette année, un coup de main, c'est ce sang de l'Alliance. Et c'est vrai, une alliance part d'une épouse aussi, d'être marié, mais on peut être marié parce que quelqu'un a été crucifié. On n'est pas automatiquement marié. On était trop sale pour être marié avec Jésus. On avait nos péchés qui nous séparaient de lui. Il a en horreur le péché. Jésus, il ne peut pas... Et quelquefois, on ne peut pas court-circuiter ce doigt-là. On ne peut pas aller... Bon, il y a des doigts magnifiques en réserve. Hein. Attends, on est qu'au début. Mais on ne peut pas court-circuiter l'alliance, ce doigt-là, qui doit briser l'accusation, qui doit briser le dos de Satan, qui doit briser le dos de la mort, qui est vraiment la croix. Et souvent, les gens, ils veulent enlever la croix pour aller tout de suite dans la spiritualité, dans les ah, il y a une, c'est pas des puissances, des énergies, la sérénité, une sorte de bouddhisme, une sorte d'hindouisme qui, où on a tout, on en est même, ah oui, la réincarnation, oui, c'est une sorte de résurrection, on est au ciel, on est les dieux. Non, non, je vous dis, on n'est pas des dieux. On est graciés pour avoir Dieu en nous, une part par le Saint-Esprit. Mais moi, je ne suis pas Dieu, loin de ça. Loin de ça, parce que je suis un pécheur avant d'être Dieu. Et après, je suis gracié. Et après, vous allez voir tout ce qu'on a en Christ. Mais il faut passer par l'alliance. Et c'est pour ça que nous prêchons l'Évangile. Parce que c'est à cette croix qu'on se met à genoux. On dit, pardonne-moi Seigneur. Et on trouve la grâce. On trouve la grâce. Et donc là où il y a l'accusation, vous trouvez l'alliance de grâce. Et ne faites pas ça trop vite. Restons au pied de la croix jusqu'à ce qu'on soit purifié par le péché. Buvez-en tout, purifié de nos péchés. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Et j'aime dire ça chaque fois que je prêche, mais si vous avez la théologie de saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin, ou d'Aquinas, vous allez voir bon, les sept péchés mortels, ou vous allez voir le péché originel. Tu vois, et on est très branché dans certaines cultures sur ce péché, péché, péché. Mais et après, on perd le sens même. Les gens, ça devient un mot qui n'a plus de sens, parce qu'on l'a trop utilisé. Mais le mot grec, c'est amartia. Hein, amartia, et ça veut dire manquer le but. Moi, j'aime bien. C'est, toi, tu es censé être gentil, tu es censé être comme Jésus, tu es censé être un être humain, debout, bien. Mais quelquefois, on manque le but et on se trouve ailleurs. On a tiré la flèche là, et c'est fini là. Et ça, si tu commences à comprendre, c'est pas juste le péché en soi, c'est parce que ça me détourne de ma destinée originelle d'être gentil, quoi, d'être comme Jésus. Et c'est pour ça que je pense que la théologie de Jean-Jacques Goldman est meilleure. Parce que lui, il parle d'actes manqués. Et j'ai dit, ah, nos actes manqués. Et chaque fois que je chante ce chant, nos actes manqués, la, 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 c'est, ah, ça me touche. Parce que moi, je peux, ça me touche mes actes manqués. Que juste péché, t'es un pécheur, pardonne-moi Seigneur, je suis un pécheur. Mais là où j'ai vraiment manqué, là où j'ai manqué d'amour, là où j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su, et je ne l'ai pas fait, et je n'étais pas comme Jésus. Et après, tu vas te dire, waouh, je suis vraiment un pécheur. Mais si tu dis, j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai pas fait des meurtres, je suis meilleur que les autres, pourquoi ? D'accord, ça c'est le péché traditionnel, machin. Mais mes actes manqués, quand j'ai manqué d'amour, j'ai manqué de vocation, j'ai manqué de la hauteur, j'ai manqué de courage. Oh là là, Seigneur. Mais, à nos actes manqués, il y a cette alliance d'amour. Allez, on a bien resté là. Je dois faire attention maintenant. Je vais vraiment faire attention, mais là, je vais faire comme ça. Il y a, ça c'est le plus visible, hein, le plus élevé, celui-là, plus élevé. Donc c'est le ressuscité, le doigt du ressuscité. Allez, plus haut, Jésus est plus haut. Et tu vois, on ne reste pas juste là. Jésus ne reste pas perpétuellement cloué à une croix, il passe de là à la résurrection. Et là, si vous voulez, vous faites une petite couronne. Et là, quand vous avez quitté l'accusation, vous êtes couronné. Notre roi, couronné. Il est ressuscité. Il est vivant pour toujours. C'est pour ça que j'ai de l'espérance. Tu sais, la résurrection nous donne de l'espérance. C'est vital. C'est pour ça que la foi dans la résurrection est contestée. Et les gens qui ont tendance au découragement et tout ça, c'est parce que quelquefois, ils manquent la foi dans la résurrection. Parce que je veux dire que quand Jésus est ressuscité, voilà, j'ai de l'espérance. Il est réellement ressuscité. Donc j'ai de l'espérance, c'est naturel. La mort n'a pas le dernier mot. La souffrance n'a pas le dernier mot. Même si je suis dans la souffrance, même si je suis malade, même si... Il y a tout un tas de choses, mais je crois que Jésus est ressuscité. Waouh! Et vous savez, il y a un passage magnifique en Jean, hein, Jean 11. Oh, c'est incroyable, notre Bible. Quelle richesse! Quelle richesse, ces histoires, ce que Jésus a vécu. Et un jour... Il choisit le lieu, hein, devant un tombeau quand même. Devant un tombeau. Et quelquefois, les gens, ils sont tellement fâchés quand tu as de l'espérance, quand tu témoignes de la beauté de Jésus, tellement fâchés. Oh, mais enfin, un peu de respect. On est devant un tombeau. Oh, les gens sont malades, ils sont tous en train de mourir en France comme des mouches et tout ça. Et là, tu parles d'espérance. Oh, mais ils vont mieux être tristes et tout ça, et on ne peut rien faire. Mais non, il faut oser parler de la résurrection. Il faut oser. Et Jésus, devant le tombeau, devant une femme qui l'accuse un peu, mais pourquoi Jésus t'es pas venu ? Mon frère est mort. Et la mort est là, et tout le monde est dans la mort, dans une pensée morbide. Et Jésus, au verset 23 là, de Jean 11, il dit, mais ton frère ressuscitera. Et ça, c'est aussi une conversation familiale. C'est une conversation entre amis. C'est de l'évangélisation, quoi. Quand tu parles aux gens, tu vois. Et ça, c'est beau aussi, parce qu'on voit combien il avait aussi dans cette foi juive. Il avait quand même cette foi. Jésus, il dit, mais ton frère ressuscitera. Et là, il dit, je sais. Moi, c'est magnifique, hein, quand même, les juifs qui croyaient à la résurrection. Mais elle, bon, c'est une question de temps. Je comprends bien. Hein. Je sais, lui répond de Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, oh, il faut le dire, hein, soit nous adorons quelqu'un qui est complètement fou, hein, soit il est complètement cinglé, ce gars-là. Il est là, il dit, en tant que ce gars-là qui a grandi, il dit, moi, je suis, bon, déjà là, Yahweh, je suis la résurrection et la vie. Waouh! Moi, je suis la résurrection et la vie. Et j'aime bien proclamer ces versets dans les églises catholiques où Jésus est trop cloué à la croix, sans mépriser cette réalité, mais il est ressuscité. Quelquefois, le seul vivant que tu trouves dans l'église catholique est Marie. Moi, j'aime bien Marie, mais bon. C'est le seul qui a un sourire. Tu vois, j'ai dit, mais c'est pourquoi les gens, quelquefois, ils mettent plus leur espérance en Marie qu'en Jésus, ou dans les saints. C'est incroyablement combien, quelquefois, les catholiques sont gênés par rapport à Jésus-Christ, de dire même le nom Jésus-Christ ressuscité. Je ne dis pas ça pour condamner. J'aime beaucoup mes amis catholiques. Mais il faut leur dire que Jésus est ressuscité réellement pour toujours. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, d'accord, écoutez bien, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ah, j'ai peur de mourir. Je vais attraper telle et telle maladie. D'accord, je ne veux pas diminuer ça. Soyons prudents, frères et sœurs. Mais nous, on est... Ne mourra jamais. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de mourir. Je ne veux pas mourir. Je vais chercher à tout prix à éviter de mourir. C'est pas... Mais je ne suis pas dominé comme les non-croyants, comme les gens qui n'ont pas de résurrection, qui ne croient pas en Jésus. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne veux pas vivre dans cette non-résurrection de ce monde. Ce monde vit dans une perpétuelle non-résurrection de Jésus-Christ. C'est juste une petite religion que tu peux avoir en privé, c'est bien pour vous. Mais moi, je veux déclarer au monde que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Et nous devons aussi avoir cette foi vitale que Jésus est ressuscité. Oui, bien ressuscité encore, ce n'est pas juste théorique, ce n'est pas juste une idée. Il a quitté le tombeau dans pleinement dans son corps. Et après, il est monté au ciel pour régner pour toujours. Mais il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Vaincu le diable. Et après, il dit à Marthe devant le tombeau, hein, ne mourra jamais. Et après, il dit, crois-tu cela? Crois-tu cela? Je vais dire ça aux évêques anglicans qui sont devenus libéraux. Crois-tu cela? T'es évêque? Crois-tu cela? Oh, mais quand même, faut pas être simpliste. Il y a une sorte de forme, ils ont imaginé. Jésus dit que si Jésus n'est pas, c'est Paul qui l'a dit avec le Saint, par le Saint-Esprit, si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, nous sommes les plus malheureux. Donc là, tu vois, croire à la résurrection, espérance. Mais si tu ne crois pas, tu es malheureux. C'est pour ça qu'on est si malheureux en France. Parce qu'on ne croit pas autant que ça. Dans les médias, Jésus est ressuscité. C'est bien qu'on le garde comme petit bébé. C'est bien crucifié toujours. Bon, je ne veux pas me moquer en disant ça, mais tu vois ce que je veux dire. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Crois-tu cela? Et donc, on va le couronner. Parce qu'on croit vraiment. Jésus est couronné. Il est couronné. Et donc, voilà. Je vais terminer. Je vous ai donné trois identités. Trois identités. Le fils du charpentier, le crucifié, le ressuscité. Mais maintenant, je vais vous donner deux noms de Jésus, encore deux noms qui portent. Qu'est-ce que je peux dire? On peut dire, mais je connais le nom de Jésus. C'est de la racine juive, Yeshua, c'est Josué, sauveur. C'est la sotérologie, hein, on dit sauter, sauveur. Yeshua, on connaît ça, Jésus sauve de nos péchés. Bon, c'est le nom qu'on connaît Jésus. Et après le Christ, Jésus, le Messie, celui qui est roi, celui qui est imprégné du Saint-Esprit, Jésus-Christ. D'accord, on a tellement l'habitude de dire Jésus-Christ. Mais à Noël, surtout Noël nous donne une opportunité d'apprendre encore deux mots au sujet de cet homme. Donc je vais vous donner les choses secrètes. C'est pas gnosticisme, n'ayez pas peur. Et donc là, bon, beaucoup ont déjà entendu parler de cette histoire. Hein. C'est peut-être mon histoire favorite de Noël, hein, je pense, parce qu'on le lit jamais à Noël. Que moi qui le lis, mais voilà, on est tous dans les versets de Matthieu et tout ça, et c'est beau, hein. Moi je méprise pas ça. Mais je vous donne une autre histoire de Noël. Marie et Joseph. Marie, elle est enceinte, elle est sur une âne. Voilà, ils sont en route pour où? Bethléem, voilà, on connaît l'histoire, c'est magnifique sur toutes les affiches. Le soleil se couche, il y a le palmier, il y a Marie et Joseph. C'est magnifique. Hein? Mais 1800 ans avant ce voyage, il y avait un autre couple qui faisait ce voyage. Vous savez qui c'était? Un autre couple, 1800 ans avant Marie et Joseph. Et ils étaient peut-être pareils. Peut-être il y avait une femme qui était enceinte aussi. Elle était enceinte. Elle était peut-être sur une âne. Et ils étaient en route pour Bethléem. Elle avait un mari qui était peut-être inquiet, comme Joseph, parce qu'il dit, bon, ma femme va accoucher. Donc, Jacob et Rachel. Jacob et Rachel. Et vous pouvez trouver cette histoire en Genèse 35. Et c'était une sorte de préfiguration de Noël. Et donc, c'est très prophétique comme histoire. C'est vraiment historique, mais c'est aussi prophétique. Et en Genèse 35, nous avons ce couple, et ils sont en route pour Ephrata, qui est Bethléem. Et malheureusement, bon, je vous donne la fin de l'histoire avant de donner le milieu et le début, il y a une triste fin à cette histoire, parce que Rachel, dans l'accouchement, qui est très pénible, elle meurt. Et après, son mari, il l'aime tellement qu'il érige une stèle sur la route de Bethléem. Et cette stèle, le tombeau de Rachel, existe aujourd'hui, même aujourd'hui. C'est un sujet de guerre entre... Ça appartient à qui? Palestiniens, Juifs. Mais il y a un mur qui le contourne, c'est quand ils ont créé leur mur et tout ça. Et donc, ça existe, et ça existait au temps de Marie et Joseph. Et j'imagine Marie, quand même, enceinte, qui passe devant la stèle d'une dame qui est morte en donnant naissance. Elle a dû y réfléchir, hein. Et si Dieu avait placé cette stèle-là exprès pour que Marie la voie et pour que le petit enfant qu'elle porte est imprégné de toute cette histoire juive. Mais voilà, pourquoi je dis ça? Vous savez, voilà, avec la main là, encore fais ça. Voilà, c'est cette doigt que je vais utiliser. Et là encore l'accusation. Encore l'accusation. Et tu sais ce qui nous accuse le plus, quelquefois, bon, il y a beaucoup de choses, mais une chose, dans ma propre vie, peut-être c'est différent pour vous, la souffrance est très propice pour alimenter l'accusation. D'accord? Quand il y a une souffrance. Parce que souvent on dit, Dieu, pourquoi? Je suis quand même bien, je ne suis pas comme les autres, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je souffre. Et donc, même si on refoule ça, quelquefois maintenant en France, les gens ne refoulent pas du tout. Hein. On a toutes sortes de blasphèmes, d'accusations qui sortent. Mais si Dieu existe, pourquoi la souffrance, pourquoi les gens meurent de faim, pourquoi? Donc, tu vois, la souffrance est utilisée comme un moyen d'accuser Dieu. Et après, si on n'accuse pas Dieu, si on est athée, même les athées accusent Dieu. Hein, il faut le faire. Hein. Je crois pas en Dieu, mais je l'accuse. Bon, je décide, hein, soit logique. Mais on accuse Dieu. Quelquefois, on le fait pas. Oh, si on n'accuse pas Dieu, on accuse quelqu'un. Ah, c'est ta faute, ma souffrance. C'est les membres de la famille, c'est ma mère, c'est mon père, c'est le voisin. Et quelquefois, c'est très justifié. Peut-être ils ont fait une grosse bêtise et ça nous fait souffrir. Mais on l'accuse et on porte cette accusation. Et après, on s'accuse soi-même. Ah, c'est ta faute parce que tu aurais dû fermer ta bouche. Pourquoi t'as dit ça? Tiens. Donc voilà, devant la souffrance et l'accusation. Et on voit ici, regarde l'histoire. 35, 16. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, « Sois sans crainte, car tu as encore un fils. » Bon, bonne nouvelle, mais après, mauvaise nouvelle. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle l'appela du nom de Benoni. D'accord? Ça, c'est un nom de Jésus. Ben-Oni. Ben-Oni. Ça veut dire fils Ben-Oni de ma souffrance. L'homme de douleur. Ben-Oni. Fils de ma souffrance. Là, ça nous fait penser à se crucifier. Mais c'est le nom même de Jésus. Ben-Oni. Il a ce nom. C'est un fils de souffrance. Quand il était sur la croix, il est le fils de souffrance. Et tu imagines la femme. Rachel dit, il va s'appeler Benoni. Tu imagines cet enfant grandissant avec le nom Benoni, sachant que son nom chaque fois lui parler de qu'il était un peu responsable pour la mort de sa mère. Grosse accusation. Oh là 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 là. Et peut-être vous vivez sous l'accusation. Peut-être vous vivez avec une accusation contre Dieu, refoulée. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi ça? Et il y a des grosses choses qui nous tombent sur la tête, hein, je ne veux pas minimiser ça. Mais écoutons bien maintenant. Mais là, c'est Rachel dans toute sa crise, qui est légitime peut-être, elle est mourante. Appelle-le Benoni. Benoni, je suis mourante. Tu sais, il y a des moments d'accusation. Je comprends, je ne blâme pas. Mais ce n'est pas le dernier mot. L'identité, notre identité de souffrance, n'est pas notre dernière identité. Et Benoni n'est pas le dernier nom de Jésus. C'est un nom de passage. C'est un nom de passage, comme la croix. C'est un lieu de passage. Et voilà. Mais, fin de verset 18, Genèse 35, mais son père l'appela Benjamin. Benjamin, et ça, quoi ça, Benjamin? Ça, c'est le fils de ma main droite. Fils de ma main droite. Rachel mourut et fut ensevelie sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Jacob plaça une stèle sur son tombeau, et c'est la stèle funéraire de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Alors, je vais terminer, hein, mais avec, en apothéose. Pas moi, mais dans la Bible. Éphésiens. Éphésiens. Je vais faire Éphésiens et Facebook. Hein. C'est un peu bizarre. Mais Éphésiens. Éphésiens 1:20 parle de la puissance de Dieu, la force de Dieu, le dernier mot de l'histoire. Et il dit que cette force, il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, car en le faisant asseoir, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, écoutez bien, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom, on a beaucoup chanté ce nom de Jésus, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est au-dessus de tout nom, au-dessus du nom coronavirus. 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, d'accord, ce nom prudent, je ne veux pas mépriser, minimiser tout ça, mais ce n'est pas le dernier nom, frères et sœurs, ce n'est pas là qui doit nous imbiber, qui doit nous incruster, qui doit nous serrer, qui doit, je ne sais pas quoi, et un autre nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Christ, mais, qu'est-ce que le Père a dit, c'est le nom de Benoni, assis à la droite du Père, le nom de l'autorité. Psaume 110, mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Jésus-Christ est victorieux et je vous donne ce nom de Benoni, sans enlever Jésus-Christ, mais il s'appelle, non pas Benoni, Benjamin. Et donc, là c'était l'accusation, allez, on le cache. Et même les autres, ce n'est pas le plus grand nom. Le plus grand nom, c'est Benoni. Non, voilà. Et Benjamin, pardon, merci, c'est bien. Le plus grand nom est Benjamin, fils de ma main droite. Et donc là, on finit avec ça. C'est tout autre genou se fléchissent, toutes les autres identités. D'accord, il est du charpentier, d'accord, il est crucifié, il est le ressuscité. Oui, là, c'est pas mal, mais là, Benoni, c'est vrai, mais là, tout ça se plie, tout genou fléchissent devant Benjamin. Allez, montre-moi le like. Montre-moi votre like. I like it. Ça, c'est j'aime. Je fais un j'aime sur Facebook. C'est là où Facebook se joint à Éphésiens. Mais j'aime. Et Jésus-Christ vous aime. Et même dans ces temps difficiles, d'accord, pas minimiser ça, mais vous avez le choix. Je pense que c'est l'esprit du monde, même si vous... Les gens me détestent quand je dis ces choses comme ça. Je suis presque culpabilisé d'être victorieux et heureux. Mais si Jésus-Christ ne me rend pas victorieux et heureux, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être pris en otage par l'esprit ambiant? Être pris en otage par l'incrédulité des autres qui ne croient pas à la résurrection? Et c'est vrai, peut-être même si je le dis avec des larmes, même si je le dis au travers de mes propres larmes, c'est ça le dernier mot de mon identité. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Et là, je dis pour 2021, voilà, Robert, sur ma vie, voilà, sur ma vie. Et je vous invite à avoir Benjamin qui couronne cette année. Et comme je dis, Sylviane, elle m'a pris par la main, elle m'a emmené à la maison. Et la main de Dieu, comme Jean a dit, veut être sur vous. Pour vous donner un coup de main. Mais ce n'est pas juste un coup de main, c'est toute cette réalité de Jésus-Christ qui est avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Prions. Seigneur, merci. Seigneur, et merci pour le coup de main que tu nous donnes. Merci car Néhémie, Ezra, il dit souvent la bonne main de Dieu était sur moi. La main de Dieu était sur moi. On a eu dans ce psaume, la main de Dieu est sur nous. Et tu nous donnes, Seigneur, un coup de main pour la fin de cette année et pour toute l'année et les années qui vont suivre. Et donc, Seigneur, je proclame un Benjamin sur chaque personne ici, pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.